patience alors.
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plane ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velocotelé. Éprouvette et velocotelé.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus dans l'émission Science Alors, la seule émission qui fait dialoguer les scientifiques, tous les scientifiques autour d'un thème commun. Et ce soir, nous organisons une émission un petit peu spéciale car nous sommes en public, en direct d'une cave clermontoise, le comptoir du vin et de la truffe. Et c'est de vin justement que nous allons parler avec une émission autour du thème œnologie, peuple et territoire.
La production et la consommation de vin sont des pratiques vieilles d'au moins 6 millénaires, comme le rapportent les découvertes récentes en archéologie, qui ont établi nombre d'éléments de preuve proposant l'Arménie comme berceau des pratiques vinicoles. Depuis ces temps reculés, la maîtrise de la production de cette boisson a évolué et continue encore aujourd'hui de s'affiner. Ainsi, les goûts que l'on connaît au vin d'aujourd'hui sont bien loin de ceux qui coulaient des amphores romaines. Au-delà des questions de composition et de techniques de fabrication, ce sont aussi les modes de consommation qui ont évolué. Le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit, disait Louis Pasteur, à un peu moins de 150 ans de nous, quand la consommation était généralisée et quotidienne. Nos contemporains, et encore plus les jeunes générations, voient au contraire en cette boisson un produit de luxe. Ainsi, les études sociologiques récentes soulignent que boire du vin devient exceptionnel pour les 18-30 ans. En suivant cette logique d'évolution dans les consommations, le siècle que nous venons de vivre a donc vu une augmentation régulière de la qualité moyenne des vins, leur production profitant des avancées régulières de la science tout en s'appuyant sur des savoir-faire et des terroirs toujours plus valorisés. La généralisation des appellations d'origine illustre cette maîtrise de la qualité, renforcée de contrôles dont les protocoles n'ont rien à envier à ceux pratiqués dans tous les autres domaines scientifiques. En parallèle de cette technicisation accrue, on observe également une démocratisation de l'intérêt pour l'art du vin et de la dégustation. Les stages d'œnologie font foison, les guides experts couvrent les rayonnages des librairies grand public. Comme dans tous les domaines sous la rampe des projecteurs, certains noms ne manquent pas de ressortir. Robert Parker, critique et expert en œnologie d'outre-Atlantique, est ainsi devenu un acteur majeur de la presse spécialisée, à tel point que certains l'associent à une brutale uniformisation des styles d'élaboration, même dans les pays à forte tradition régionale comme la France ou l'Italie. On l'aura compris, le vin revêt pleinement une dimension culturelle et peut même être vu comme un acteur, un vecteur de civilisation. Au cours de cette émission, nous nous intéresserons à comprendre un peu mieux comment cette culture est un élément clé de notre patrimoine, à travers son influence sur les peuples et sur les paysages du monde. Nous nous intéresserons également aux aspects chimiques de la fabrication et de la composition des vins, et bien sûr, nous ne manquerons pas d'évoquer les particularités de la région dont nous émettons.
Science alors !
Éprouvette et velocotelé. Pour en parler, nous sommes en compagnie de trois invités. Donc, Yvain Coste, tu es historien et géographe de formation et tu as notamment participé à un dossier sur l'amélioration de la visibilité des côtes d'Auvergne. Bonjour.
Bonjour.
Christian Barbala, vous êtes ancien directeur du laboratoire d'œnologie de Clermont-Ferrand et membre de la confrérie des compagnons du Bousset d'Auvergne. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis, nous avons également avec nous un vigneron, Jérôme Chapelle. Donc, vous êtes installé depuis 2008 à Laps, vers Vic-le-Comte. Oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on a parlé de ce laboratoire d'œnologie de Clermont-Ferrand. Il existe encore ?
Non, il n'existe plus, le laboratoire d'œnologie de Clermont. C'est une vieille institution qui a été créée en 1902 et qui a été centenaire, puisque c'est un laboratoire qui a duré jusqu'en 2003.
Et ensuite, il a fermé parce que le vin en Auvergne, c'est fini, c'est pour ça qu'on n'avait plus besoin.
Non, au contraire, le vin en Auvergne, ça recommence fort. Non, ce n'est pas cette question-là qui a fait fermer le laboratoire. Je dirais que le laboratoire du département du Puy-de-Dôme était un laboratoire accrédité COFRAC. On a été le premier laboratoire accrédité par le COFRAC, comité. Qu'est-ce que le COFRAC? Alors, le COFRAC, c'est le comité français d'accréditation qui garantit la qualité des prestations.
D'accord.
Alors, pour garantir la qualité de ces prestations, il y a des audits. Et au fur et à mesure où il y a eu des audits, on s'est aperçu qu'on perdait un petit peu de technicité parce qu'on ne faisait pas assez d'analyses.
Parce qu'il n'y avait pas assez de vins produits dans la région ?
C'est pas assez de vins produits, c'est pas assez d'analyse d'échantillons, tout simplement. Hein. Il y a des petites régions qui produisent du vin et peu et qui ont un laboratoire dans leur région. Nous, on faisait à peu près 600 à 1000 analyses par an, alors que maintenant, les grands laboratoires œnologiques font 200 000 analyses par an.
Donc c'est la même politique de centralisation, entre guillemets, qu'on peut trouver dans d'autres secteurs où des grands centres sont devenus experts et puis les villes périphériques ont moins eu leur mot à dire, peut-être.
Eh bien, c'est en rajoutant « hélas », c'est ça. C'est « hélas » la même politique. Les petites et moyennes structures disparaissent. On dit qu'on fait de la décentralisation, mais par ailleurs, on recentralise. On va dans des laboratoires régionaux ou interrégionaux. Et ça pose d'ailleurs des problèmes aux viticulteurs qui doivent envoyer leurs échantillons beaucoup plus loin et ont des frais d'envoi qui sont beaucoup plus importants.
Justement, Jérôme Chapelle, vous êtes un jeune vigneron installé dans la région. Alors, ça vous pose un problème?
Oui, ça nous pose des problèmes parce que pour les analyses, on est obligé d'envoyer nos vins à analyser soit en Bourgogne ou dans le Beaujolais pour les laboratoires les plus près, soit sur le Languedoc-Roussillon après, sur Montpellier. Donc à chaque fois, il y a des coûts et les échantillons peuvent être dénaturés pendant le transport.
Et pourtant, en fait, hein, vous venez de dire, Christian Barbala, que justement, la viticulture en Auvergne, ça avait, avait repris, connaissait un nouveau souffle.
Ah, il y a vraiment un renouveau de la viticulture en Auvergne. Et nous, on a suivi ce renouveau, puisque j'ai été le dernier des quatre directeurs de laboratoire qui se sont succédés depuis 1902. Et sur le dernier quart de siècle, on a constaté un renouveau phénoménal de la qualité des vins en Auvergne. On a créé au laboratoire un indice original, hein, puisque je dis qu'il est original, c'est moi qui l'ai créé, donc je me fais un peu de pub. Non, je rigole. C'est un indice que l'on appelle l'indice de qualité qui est fonction du degré alcoolique, du titre alcoométrique volumique, fonction directe et fonction inverse de l'acidité. C'est-à-dire que plus un vin aura de l'alcool, entre guillemets, ce n'est pas une question de qualité d'avoir de l'alcool, mais plus on arrive à tirer d'alcool dans le vin, c'est-à-dire plus on fait mûrir le raisin, plus on a d'alcool, et moins on a d'acide. Et plus le vin a de la qualité.
Est-ce que c'est quelque chose qui est typique des vins d'Auvergne, cet équilibre entre les deux, ou c'est un outil de mesure qui est satisfaisant pour tous les vins de toutes les régions?
Ça peut s'appliquer à tous les vins de toutes les régions. Un œnologue bordelais m'a même dit qu'il était très intéressé par cet indice. Mais je lui ai dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que nous, on n'a pas besoin de le faire, puisque de toute façon, on est en AOC depuis très longtemps. Nos vins sont de qualité, ce qui, là, ça peut amener des grandes discussions, hein, parce que dans les autres régions, il y a des vins qui sont de qualité, mais qui sont de moins bonne qualité aussi. Mais ils n'ont pas besoin de ça. De même qu'en Espagne, ils n'ont pas besoin de millésimer les vins.
Hein. Pourquoi?
Bien parce qu'ils ont toujours du soleil et qu'ils n'ont pas d'effet de millésime, il est toujours bon.
C'est uniforme dans le temps.
C'est uniforme dans le temps. Donc ils n'ont pas besoin de millésimer les vins.
Alors vous avez dit qu'il y avait un renouveau, ça veut dire qu'il y a eu une période d'or de la production de vin en Auvergne?
Ah, il y a eu une période de bronze, je dirais, où le vin n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Hein. C'est d'ailleurs quelque chose dont on ne veut plus trop parler. Hein. on ne veut plus trop parler de ça parce qu'on ne veut pas trop parler du passé, mais se tourner vers l'avenir. D'ailleurs, il y a un jeune viticulteur ici qui se défonce hein, pour faire des produits de qualité et se retourner vers l'avenir, vers le passé, c'est pas tellement le choix qui est fait actuellement par la Fédération viticole. Hein.
Mais vous, Yvain Coste, donc vous avez une formation de géographe et d'historien, comme Claire l'a dit. Alors quel est votre donc vous avez travaillé aussi hein, en Auvergne.
Oui, bah, ça peut être l'occasion de parler un peu du passé, même quand même pour en tirer quelque chose de positif, au moins, si ce n'est au moins sur le patrimoine. Parce que des vignes en Auvergne, il y en a depuis, d'après les fouilles archéologiques, depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. On a eu ensuite une explosion quand même de la production. On a eu jusqu'à 10 000 hectares d'après les sources au Moyen-Âge, au 11e siècle, ce qui faisait beaucoup plus chaud que maintenant. Il y avait un optimum.
Alors juste pour 10 000 hectares, pour aujourd'hui, il y en a combien pour qu'on ait une idée?
Là, on discutait avec Christian, à peu près 1 000 hectares amateurs plus pro. Donc 380 hectares uniquement de pro.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait 10 fois plus de production
Après, il y a l'hectare et puis il y a la production en hectolitres. Donc après, je ne sais pas au Moyen-Âge ce que ça représentait, le rendement. Hein, mais bon, 10 000 hectares, c'est monstrueux. Et ensuite, vers le 17e, fin 17e, 18e, on arrive autour de 15 000, entre 15 000 et 20 000 hectares. Et puis fin 19e, c'était 43 000 hectares pour le département. C'est l'équivalent de la production du Languedoc maintenant.
Donc c'était vraiment gigantesque.
Hein. Oui, c'était vraiment énorme, oui.
Et alors, c'était quel type de vin à ce moment-là?
C'est ça le problème, justement. parce que là, on a... À la fin du 18e, il y avait déjà un problème de surproduction. Donc, c'était vraiment le vin qu'on écoule vers la capitale. On utilise... c'est le commerce fluvial à travers Pont du Château et Dalet. On amène du vin, on le coupe un peu à l'eau. Et puis bon, là, ça arrive à Paris. Ça, c'est pas forcément un super gage de qualité. Fin 19e, je pense pas que ce soit bien mieux. On a du vin de grosse production. Le phylloxéra arrive en France, mais ça ne touche pas le Massif central. Ça D'accord. touche les régions du sud, c'est plus ou moins... Le Massif central est plus ou moins épargné. Mais les régions qui sont touchées par le phylloxéra vont pouvoir se reconstruire. Et l'Auvergne, elle va attraper le phylloxéra au moins 10-15 ans plus tard, je crois. Hein. Et ils ne vont pas avoir le temps de se reconstruire pour cause de Première Guerre mondiale. Et le mildiou aussi, je crois qu'ils ont un problème de mildiou en 1910, je crois, quelque chose comme ça. Et Michelin, qui arrive et qui intensifie l'exode rural et qui empêche finalement aux vignobles de se reconstruire.
Mais ça veut dire que les ouvriers, ils ne buvaient pas de vin?
Si, mais on a beaucoup de... il y avait énormément de petits exploitants. Des gens qui avaient leur petit lopin de terre, qui cultivent un peu de vigne, un peu de pommes de terre, etc. Ensuite, ils partent vers Michelin, ils continuent quand même de consommer. La production, on ne va pas chuter du jour au lendemain, mais c'est vraiment du vin à boire comme ça. Ça contribue toujours à une très mauvaise image. Et puis le vignoble arrive dans un espèce de déclin, mais vraiment progressif. Et puis c'est pendant toute la deuxième moitié du 20e, C'est vraiment catastrophique. Je crois qu'en 52, il y a une énorme grêle qui massacre tout le vignoble. Ça ruine complètement les espoirs. Donc l'image du vignoble va commencer à remonter très péniblement dès les années 50, mais ça va... On voit vraiment que...
Christian Barbala, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, la cause, comme l'a dit Yvain, effectivement, la cause première de l'explosion du vignoble auvergnat à la fin du 19e siècle, c'est le phylloxéra, qui est arrivé chez nous après les autres régions viticoles. Et comme il est arrivé après, les autres régions viticoles ne pouvant plus fournir, on s'est tourné vers l'Auvergne qui n'était pas touchée, et on fait pisser la vigne. Hein. Et on avait entre 45 à 50 000 hectares en 1890, on était le troisième département producteur en France après deux départements. Alors, vous voulez que je vous pose des questions? Je vais vous les poser.
Hein. Posez-les au public, peut-être qu'ils vont répondre.
Alors, quels étaient les deux départements qui étaient avant nous?
Il y a un micro devant vous, si vous voulez le prendre. Il y a quelqu'un qui s'approche.
Pour le faire passer.
Alors, dans le public, le micro est tendu. les deux départements qui étaient devant le département du Puy-de-Dôme à cette époque-là.
La Gironde.
Oui.
Et le deuxième, ça devait sans doute être la Bourgogne.
Bravo, vous avez tout faux.
Bravo,
vous avez tout faux. Vous avez tout faux.
Il s'est lourdement trompé.
Bravo, vous êtes lourdement trompé. Je fais le coup à chaque fois. C'était l'Aude et l'Hérault. On était devant la. Eh oui, on était devant. D'ailleurs, tu avais donné la réponse, hein, Yvan, pour
les.
Vous n'êtes pas très attentif dans le public, on remarque.
C'est ça, c'est ça.
C'était l'Aude et l'Hérault qui est.
On vient d'arriver.
Qui était avant nous. Et on était bien devant la Bourgogne et le Bordelais, hein, c'est dire.
Alors, Jérôme Chapelle, justement, vous vous êtes installé en 2008. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune homme comme vous à vouloir s'installer comme vigneron en Auvergne?
Eh ben, bon, déjà, je me suis installé en Auvergne parce que c'est ma région d'origine. Donc, j'étais intéressé par la viticulture. J'ai navigué sur plusieurs régions pour voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Et puis, je suis revenu m'installer ici pour des raisons où c'est assez facile en étant du coin. Voilà. Donc ça permet de pouvoir récupérer des vignes pas trop loin les unes des autres pour pouvoir agrouper une exploitation et travailler sur place.
Et c'est pas dur de porter le poids de la réputation de la région quand on démarre ?
Ben, quand on démarre, c'est une exploitation que j'ai créée, donc il n'y a aucun a priori sur l'exploitation. Donc ça permet déjà de partir sur des basses scènes.
En précisant qu'on est jeune, qu'on arrive, c'est ça ?
Voilà. Et ça permet aussi de relancer un peu la région, bon, en commençant petit, tout doucement, quoi.
Bon, on parlera peut-être tout à l'heure du type de vin que vous fabriquez, mais avant, Cécile va nous proposer une petite énigme historique. Cette année-là,
c'était quelle année déjà ?
Alors voilà, donc notre grand jeu, mais alors cette fois on le fait en public, donc j'imagine que les réponses vont être innombrables. On va faire passer un micro dans le public. Donc voilà, l'énigme consiste à trouver l'année, une année.
L'enfer chez les autres a été toujours mal compris.
Cette voix un peu éraillée, un peu cassée, c'est bien sûr celle de Jean-Paul Sartre. Et la petite phrase, l'enfer, c'est les autres, c'est dans une de ses plus célèbres pièces de théâtre, Huis clos. L'écrivain philosophe est donc mort hier soir à l'hôpital Brousset, où il avait été admis le mois dernier pour un édème du poumon.
Reagan is our projected winner. Ronald Wilson Reagan of California, a sports announcer, a film actor, a governor of California, is our projected winner. At 8:15 Eastern Standard Time on this election night, we have projected Ronald Reagan the winner. And to add evidence to that projection, we are projecting him as the winner in our states.
Imagine there's no heaven.
La nouvelle académicienne Marguerite Yourcenar reçoit sur le paquebot Mermoz, où elle est en croisière, un télégramme de félicitations de Valéry Giscard d'Estaing, je vous l'ai dit. C'est vraiment comme un grand événement qu'a été saluée l'élection à l'Académie française de Marguerite Yourcenar, première femme écrivain, assiégée sous la coupole du Quai Conti. Certains académiciens ne sont pas encore remis, c'est vrai, de l'arrivée parmi eux dans cette noble institution créée par Richelieu d'une immortelle repliée dans son lit.
Alors, nous précisons que le gagnant ou la gagnante aura un droit, donc aura gagné hein, une bouteille donc, de vin de notre invité Jérôme Chapelle. Alors.
On tend le micro aux spectateurs
dans
ici.
Public,
est-ce que quelqu'un veut proposer une date, une année? Parce que la question, c'est bien sûr, quelle est l'année représenté par l'extrait, les
non,
extraits
non, mais
qu'on
on ne souffle pas. Il y en a qui essayent de capter le regard des animateurs pour voir si quelqu'un va vendre la réponse, mais pas du tout. Nous avons une déontologie, monsieur, dans cette émission. Alors.
Peut-être nos invités ont une proposition à faire.
Yvan.
Je vais tenter 1980.
Bravo, bravo. Notre bien. Grand gagnant, nous l'avons, c'était 1980. Et il y avait un piège, puisque hein, The Wall a été... Bon, l'album est sorti en novembre 1979, mais la grande tournée a démarré en 1980. Élection de Ronald Reagan, mort de Jean-Paul Sartre. Voilà, élection aussi de Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie française. Et...
Heureusement qu'il y avait Reagan.
Et mort de John Lennon assassiné.
Un historien voilà. qui gagne une question sur l'histoire. Ok, c'est facile.
Mais bravo, c'est tout à votre honneur.
On va reprendre le
s'il y a une question sur la géographie, c'est truqué le truc. Parce que t'es aussi géographe.
Bon, on va poursuivre sur des questions de chimie peut-être alors.
Ah, pourquoi pas.
Alors justement, la chimie et le vin, pourquoi ? C'est quoi le rapport fort entre les deux ?
Ah bah... la chimie et le vin, dans le vin, il y a de la chimie et il y a de la biologie.
D'accord, biochimie
le,
donc
le, de la biochimie, effectivement, oui, parce que le vin est vivant, c'est quelque chose de vivant. Hein. Donc.
Vivant, ça veut dire qu'il évolue avec le temps, peut-être pas avec des petits.
Ah, qui est vivant depuis que le raisin est sur le cep de vigne, hein, jusqu'à son élevage en fût, finalement, et sa conservation.
Et Jérôme
Chapelle. Et même sa consommation. Jusqu'à la consommation.
Jusqu'à la consommation.
Et alors justement, Jérôme Chapelle, est-ce que vous avez suivi, quel genre de cursus avez-vous fait ? Est-ce que vous avez suivi des études de chimie, par exemple ?
Non, moi j'ai suivi des études d'œnologie. Donc j'ai fait un BTS viticulture œnologie à Mâcon d'Availlé, au lycée viticole. Et puis après, j'ai fait une licence en commerce des vins, parce que c'est bien de savoir le vendre aussi. Voilà. Donc, mais il y a une grosse partie du programme qui est de chimie quand même.
Et alors, c'est quoi les questions qu'on se pose d'un point de vue chimique quand on s'intéresse au vin ? Est-ce que c'est la proportion de sucre, par exemple, à l'intérieur ? C'est ce genre de choses auxquelles on va s'intéresser. Par exemple, vous avez parlé au début de l'émission du travail du laboratoire d'œnologie qui travaillait à faire des analyses. Quels sont les types d'analyses qu'on a besoin de faire sur du vin ?
Oh, l'analyse classique, elle est connue. C'est le titre alcoométrique volumique.
D'accord.
C'est-à-dire le degré alcoolique qui est... affiché obligatoirement d'ailleurs sur l'étiquette de la bouteille, hein. L'acidité totale, l'acidité volatile.
C'est quoi les différences entre les deux acidités ?
Alors l'acidité totale, c'est toute l'acidité du vin. C'est la somme de l'acidité que l'on appelle fixe, qui est plus l'acidité tartrique, hein, plus l'acidité volatile, qui est l'acidité due à l'acide acétique. Hein. Et l'acidité volatile est un petit peu plus péjorative parce qu'on considère qu'au-dessus de 0,9 g par litre d'acidité volatile, le vin n'est pas marchand.
Ça veut dire qu'au palais, on n'apprécie pas d'avoir beaucoup d'acidité.
Bah, au palais, concrètement, on a le goût de vinaigre. Quoi, hein. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc ce sont des défauts que l'on ne rencontre plus du tout dans les côtes d'Auvergne, mais ce sont des défauts que l'on a pu rencontrer dans le passé. Hein. Moi, j'ai connu de ce type de vin. Alors bon, bah, c'était dû à différentes pratiques œnologiques peu conventionnelles. C'était dû à du matériel vinaire qui était peu adapté ou mal nettoyé. Hein. Et toute amélioration qui a été amenée dans les pratiques et dans le matériel vinaire ont fait que maintenant, on a des vins qui sont tout à fait conformes à la réglementation sur ces plans-là. Mais on recherche aussi le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre, c'est un conservateur du vin qui est toujours autorisé. On parle de le réglementer sur le plan européen, hein, ou voire même de le supprimer, mais je ne vois pas par quoi le remplacer, hein, actuellement.
Quel rôle il joue alors le dioxyde de soufre, du coup ?
Il stabilise le vin et évite son oxydation. Une autre maladie du vin, c'est l'oxydation. C'est-à-dire que je dirais que le vin, c'est quelque chose de si fragile qu'il craint à la fois l'oxydation et il craint aussi son contraire, c'est-à-dire la réduction. Si on met trop de dioxyde de soufre, on risque d'avoir des mauvais goûts qui sont différents de ceux de l'oxydation, mais qui ne sont pas pour autant très agréables au palais. Et puis, il y a d'autres types d'analyses, comme la recherche de la fermentation malolactique, c'est-à-dire la transformation de l'acide malique en acide lactique, malolactique, un diacide en monoacide, qui fait que le vin, c'est ce qu'on appelle la refermentation, ce qu'on appelait la refermentation, la fermentation secondaire, qui se produit après la fermentation alcoolique et qui fait que le vin s'assouplit, c'est-à-dire que son acidité diminue.
Alors en fait, là, si moi je me replace dans la perspective du consommateur hein, qui n'est pas initié, comment se repérer dans tout ce que vous dites, en fait, dans toutes les mesures que vous effectuez, comment est-ce que le consommateur peut avoir un peu une idée de ce qu'il achète quand il... Alors, peut-être Jérôme Chapelle.
Pour le consommateur, le meilleur moyen de savoir, c'est de goûter le vin pour savoir ce qui nous plaît, parce que c'est assez subjectif aussi. Ce n'est pas une analyse qui fait qu'on aimera ce vin ou pas.
Alors justement,
je voulais juste poser une question. Est-ce que vous-même, vous travaillez avec des chimistes?
Non, je ne travaille pas avec des chimistes, non.
Alors, quel est votre processus? Comment vous travaillez
Donc moi, je suis sur un secteur assez différent de la production classique. Donc je fais des vins naturels, donc j'apporte rien dans le vin, j'apporte pas de produits chimiques, sauf un peu de soufre pour le protéger de l'oxydation, justement.
Voilà. Et c'est quoi la différence entre un vin bio et un vin naturel?
Le vin bio, ça existe que depuis l'année dernière.
D'accord.
Avant, ça n'existait pas, c'était les raisins qui étaient bio. Donc vin bio, entre guillemets, il y a une charte qui est peu restrictive, donc ça, c'est pas très intéressant, on va dire, pour l'instant. Et les vins naturels, c'est des vins où il n'y a aucun apport, sauf après il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'on n'apporte absolument rien au vin, donc on le laisse travailler en s'en occupant, mais sans apporter de produit. Et il y a une autre école qui dit qu'on peut apporter un peu de soufre pour le protéger.
Et il se conserve aussi bien qu'un vin qui n'est pas naturel, entre guillemets. Un vin naturel...
Et il faut quand même respecter des températures, pas le laisser au soleil. Voilà.
Oui. Si je peux rajouter quelque chose, ce sont quand même des vins qui sont un petit peu plus fragiles par définition et peut-être à boire plus jeune. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais
Ben moi, je travaille sur des vins en surmaturité. Donc, je récolte quand la maturité est assez élevée. Et donc, j'essaie d'extraire des tanins un peu plus longuement en cuve pour avoir des vins plus chargés et qui résistent un peu mieux à l'oxydation.
D'accord. Alors ça, c'est un autre aspect de l'analyse. C'est la présence des tanins.
Qu'est-ce que c'est?
Les tanins sont des polyphénols. Hein,
c'est un bien gros mot.
C'est un bien gros mot, excusez-moi. Mais bon, voilà, c'est ça. Mais qui ont une double vertu. C'est d'une part, par rapport à la santé, les tanins sont assez bons pour la santé.
C'est pour ça que le pasteur avait dit que c'était bon, alors le vin, ça vient de là, sans doute.
Oui. Il est prouvé que les tanins des vins rouges ont un effet protecteur sur la cellule veineuse. Alors évidemment, les détracteurs du vin vous diront toujours, effectivement, oui, mais d'accord, mais dans le vin, il y a de l'alcool et c'est ça qui est embêtant. Bon, c'est vrai, il y a de l'alcool dans le vin, mais il suffit d'en boire moins. Et de boire peu, mais de boire bon, et surtout de boire du Côte d'Auvergne.
Alors, moi j'ai une question pour Yvain Coste, en fait. Quel est le rôle du géographe dans toutes ces questions, par exemple de label, on va peut-être plutôt revenir au terroir, là.
Oui, enfin, on peut y lier ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire, c'est-à-dire qu'après la crise, le vignoble était complètement morcelé. Donc après, on peut faire une analyse spatiale, mais on pourrait rester simple. En fait, le vignoble ici, c'est une grande ligne nord-sud, on va dire une centaine de kilomètres nord-sud, grand maximum, qui va des vignobles de Madargue jusqu'à Boude, et 30-40 kilomètres est-ouest à peu près. Et bon, après, par rapport au vignoble même, nous, en dehors d'une analyse, d'un diagnostic, etc., ce qui peut jouer par rapport à la label, ça serait plus une étude parcellaire, des aires de délimitation. pour ce qui est jugé comme apte à rentrer dans, en AOC, en appellation, enfin AOP maintenant, par appellation d'origine protégée. Mais il n'y a pas que le, comment dire, le, la cartographie, c'est aussi la typicité des sols. Mais là, je pense qu'il y a des personnes plus expertes que moi pour peut-être détailler.
Juste pour comprendre ce que vous venez de dire, ça veut dire que dans une labellisation, on a parlé de chimie, il n'y a pas que la chimie qui entre en jeu et les territoires sont importants ?
Oui, bah, parce que c'est la, la typicité des sols. Comment dire, vous avez ici des, comment dire, des vignobles qui ont leur force grâce à la typicité volcanique, mais pas que. Vous avez les sols argilo-marneux de la Limagne, et puis vous avez les reliefs inversés, des, comment dire, des, langues bas, des coulées basaltiques qui donnent la typicité au vin.
Donc c'est ça en partie qui va déterminer, si on va être, on va rentrer dans le cadre d'un label ou non, le type de sol sur lequel on exploite la vigne.
C'est plus nuancé que ça, mais ça joue. C'est, mais je pense que là, par contre, je ne suis pas assez peut-être expert pour vraiment connaître tous les critères, parce que je sais que c'est assez compliqué. Hein, le, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, je crois, a été créée en 82, je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'était
je crois que c'est ça. Et ils étaient en partie pour, ils étaient en AOVDQS, appellation d'origine de vin de qualité supérieure. C'est avant l'AOP. Et ils lançaient les démarches pour passer en AOP. Donc, vous avez vu, plus de l'AOP, il a été obtenu en 2010. Donc, 28 ans de démarche. Donc, c'est vraiment compliqué parce que vous avez déjà tous les contrôles de qualité, de production. Vous avez effectivement le sol. Puis parfois, vous pouvez avoir une parcelle qui semble être complètement dans l'air et puis qui est complètement coupée en son milieu parce que, je ne sais pas, ça va être trop plat parce qu'il n'y a plus du tout d'exposition, le coteau n'est pas bon.
Est-ce qu'il y a des questions de politique aussi dans ces découpages en zone AOP et AOC ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas... un gros exploitant, on va l'inviter à être dedans ou non ? Ou est-ce que ce n'est pas du tout des choses qu'on, qu'on intègre
je
dans la
je ne pense pas. En Corée du Nord, peut-être, mais là, non.
C'est une question naïve. Hein. Comme non, c'est un découpage des territoires, on pourrait penser que...
Non, il y a différentes couleurs de vin. Il y a du blanc, du rosé, du rouge, mais ça n'a rien à voir avec la politique, hein, apparemment. Hein.
Pas de politique en, en vin, donc.
Non.
Non, le découpage, il est fait par des experts de l'INAO. Donc, qui sont basés à Sancerre, ceux qui s'occupent de nous pour l'instant, mais bon, leur bureau va être supprimé. Donc, ils viennent sur le terrain et ils voient les parcelles qui peuvent rentrer dans l'appellation ou non. Donc, c'est suivant l'exposition, le sol. Et,
voilà. Et ça veut dire que quand vous, vous avez commencé votre exploitation, vous avez choisi l'endroit où vous alliez vous installer en fonction de la carte des AOP ou des AOC de l'époque ou... C'est quelque chose qui vous a préoccupé ?
Non, pas forcément en commençant. Voilà, j'ai la commune où je me suis installé, je savais qu'ils seraient dans la zone parce qu'ils étaient déjà en VDQS, donc il y a de fortes chances pour que ça poursuive. Et après, je sais que c'est un terroir qui est très bien exposé à plein sud, sur le pied de Saint-Romain, la montagne. Voilà.
Donc vous avez plus fait parler votre expérience personnelle plutôt que les labels et en vous disant que ça allait aller dans le sens du positif, c'est ça ?
Voilà.
Bien, on va tout de suite passer à un deuxième jeu parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont été frustrés de ne pas pouvoir répondre à la première question. Donc on a un deuxième petit jeu à vous proposer. On vous explique le principe du jeu. Donc, Jérôme, ici présent, va déboucher une bouteille.
Voilà, donc on va...
On va lui fournir un tire-bouchon et une bouteille.
Et une bouteille, mais à l'aveugle, hein, c'est-à-dire qu'on ne verra pas l'étiquette. Le public, nombreux, vous public, vous ne verrez pas l'étiquette. Mais, donc, l'œnologue doit avoir, bien sûr, le sens du goût, de l'odorat, bien sûr, de la vue. Mais
je
aussi...
ne fais plus aucune dégustation de
non,
ce
non.
type-là.
Non, non, mais vous inquiétez alors... pas. Il doit avoir aussi l'ouïe fine.
Ah, l'ouïe fine.
Bien
parce
sûr.
Parce que c'est radiophonique.
Alors, attention. Et donc, voilà. Alors, le jeu, ça va consister. Donc, Jérôme va déboucher la bouteille. Attention, à trois, à trois.
Écoutez bien.
Écoutez bien. Ah, et grâce au bruit, vous allez deviner le cru et l'année.
Alors, on attend dans le public des réponses, hein.
Des réponses. Il y a
une main qui se lève. Une réponse rapide.
Monsieur.
Un doigt se lève. Monsieur, comment vous appelez-vous ?
Bonjour, Anthony.
Bonjour
Anthony. Pardon, ça me paraît assez évident en fait. Déjà, ouverture au sommelier classique, métallique. Concernant la matière, on se situe très nettement, je pense, sur du liège. La tessiture sonore parle d'elle-même. Pour le reste, beaucoup de promptitude, j'ai trouvé à la sortie du bouchon. Ce qui évoque chez moi la viscosité de certains vins blancs moelleux liquoreux du sud-ouest. Et je pencherai assez pour un Jurançon, domaine Pissondès, millésime 2008. Voilà. Alors quelqu'un qui, un mec qui se tromperait sur un test comme celui-ci, j'aurais envie de lui dire, mets-toi à l'eau. Mais à l'eau, quoi. C'est comme si je disais, t'es un mec et t'as pas de vin dans ta cave. Voilà. Merci.
Bravo, alors là, bravo pour cette magnifique argumentation, monsieur. Bravo.
C'est assez construit, effectivement.
Ah oui, c'est fou. Là, c'est
Est-ce qu'on a d'autres propositions dans le public c'est suite vrai. À ça ou...
Quelqu'un d'autre veut argumenter, peut-être contredire la première argumentation?
C'est vrai que là, vous avez mis la barre assez haut, donc ça inhibe un peu les autres... Notre réponse. Alors, donc, Jérôme Chapelle, c'est vous qui allez nous prononcer ce verdict.
Donc, il s'agit malheureusement d'un Jurançon. Non, en fait, c'est un Côte d'Auvergne rouge, Gamay Pinot de 2011. Donc, c'est un vin de ma production.
Mais pourtant, c'était beau. On peut quand même l'applaudir. C'était quand même une très belle réponse.
Et monsieur, une réaction, peut-être.
Donc, malheureusement, vous allez devoir boire de l'eau maintenant.
Ça reste à prouver, mais je pense qu'il s'agit d'un extrait sonore. Vous avez dû vous tromper d'extrait sonore.
Non.
Je suis formel.
Donc, il s'agit en fait du vin que vous produisez. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Voilà, donc c'est un vin qui sera en bouteille dans quelques temps. C'est un échantillon que j'ai pris sur cuve pour faire déguster. Donc, il s'agit d'une récolte de 2011. Donc, c'est un vin qui a déjà 18 mois qu'il est rentré dans la cave. C'est 50% Gamay, 50% Pinot, donc c'est les deux cépages qu'on a le droit en AOC. Chez nous, en Auvergne, c'est limité par décret.
On va le goûter tout de suite.
On va le goûter pendant la pause musicale, on va le faire déguster au public.
Let's go.
make you mine.
Et nous voilà de retour à l'antenne. Alors je pense que tout le monde a décidé d'aller déguster. J'entends les discussions ici et là qui évoquent le vin qu'on vient de déboucher dans le pop quiz. Est-ce que les gens qui en ont goûté peuvent nous dire un peu quelque chose dessus? Peut-être vous avez le micro là-bas dans le public. Est-ce que quelqu'un veut évoquer quelque chose au sujet du goût de ce vin?
Quel arôme avez-vous reconnu?
Raphaël, je suis sûr, ou peut-être quelqu'un d'autre. Hein, mais... Ah, tu n'as pas encore goûté, Raphaël. Peut-être quelqu'un d'autre?
Ne faites pas les timides.
Je vais juste dire que je le trouve très bon, mais après je ne saurais pas mettre d'autres mots dessus. Je n'ai pas le vocabulaire ni l'expérience. Et merci en tout cas de nous l'offrir.
Donc, personne ici n'a le vocabulaire. C'est peut-être à nos invités.
Le vocabulaire du vin, on en parlerait pendant des heures. Hein. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un assemblage Pinot Gamay, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure. Que au maximum, on a droit dans l'appellation 50% de Pinot.
Pourquoi ?
C'est le maximum. Parce que c'est la règle qui a été fixée par l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine et de la Qualité, maintenant. Je crois que les viticulteurs auvergnats veulent essayer d'obtenir que l'on puisse faire un pur Pinot.
Voilà, donc c'est la volonté, c'est d'essayer d'obtenir une AOC en pur Pinot. Ce qui n'est pas gagné encore, parce qu'on vient juste d'avoir l'autre AOC, donc pour réviser le cahier des charges, il faut un bon moment. Voilà. Déjà que pour avoir la première, on a mis 28 ans, voire plus.
Si c'est reparti pour 28 ans...
Voilà, ça risque d'être long. Mais il y a une autre solution, c'est on a les 20 pays du Puy-de-Dôme, ou IGP, et où on a le droit à des cuvées en 100% Pinot.
Yvan, vous voulez dire ?
Oui, c'était juste pour une petite parenthèse historique, puisqu'effectivement, c'est un peu particulier dans la législation. Si on fait du 100% Pinot, on est en 20 pays et on est obligé de passer à 50%, et puis sinon on perd le label Côte d'Auvergne. Et pourtant, je crois que le cépage Pinot est arrivé avant le Gamay, historiquement, puisqu'on avait des plants de Pinot au 16e en Auvergne, et le Gamay est arrivé plus tard vers le 18e. Mais c'est peut-être aussi pour éviter de ressembler trop à d'autres vignobles, notamment Bourgogne qui fait plein de pinots et on ne peut pas concurrencer ce secteur-là.
Alors, Christian Marbella.
D'ailleurs, le pinot s'appelait l'Auvergnat dans ces temps reculés. Pour revenir au vocabulaire du vin, étant donné qu'il y a 50% de pinot et 50% de gamay, on peut reconnaître. Le pinot se reconnaît à la griotte, la cerise. Hein. Et le gamay, ça sera plus le fruit rouge, c'est-à-dire ce que l'on a en général dans la tête quand on parle de fruits rouges, c'est la mûre, c'est le cassis,
la fraise,
voilà.
Et c'est ce qu'on va retrouver dans le vin que vous venez de goûter.
C'est ce qu'on devrait retrouver, voilà.
Et alors moi j'avais une question par rapport à la consommation. Est-ce que du coup vous avez une recrudescence hein, de la consommation des vins d'Auvergne? Est-ce qu'il y a de nouveaux amateurs?
Et ben avec l'AOC, depuis qu'on a obtenu l'AOC, on a parlé un peu plus de nous dans les médias. Et du coup, les gens commencent à se tourner vers nos produits.
Voilà. Est-ce que c'est aussi lié à... Vous aviez parlé tout à l'heure du fait que vous veniez d'arriver. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme vous, d'autres jeunes qui prennent des exploitations? J'ai la sensation que c'est aussi pour la raison pour laquelle il y a ce renouveau, c'est qu'il y a des jeunes gens qui arrivent.
Oui, oui, bah, tous les ans, en général, c'est une installation de jeunes par an. Sur le Puy-de-Dôme.
C'est assez intensif alors.
Voilà, donc tout doucement, ça se repeuple de jeunes.
Et ces jeunes qui arrivent, est-ce qu'ils ont envie de retrouver l'histoire de l'Auvergne d'avant ou est-ce qu'ils ont envie de créer des choses nouvelles? Comment ça se passe?
Ils ont plutôt envie d'aller sur des vins plus modernes et faire des vins de bonne qualité. Voilà.
Yvan ?
Oui, à la rigueur, c'est vrai qu'en termes de qualité, effectivement, construire autre chose. Et puis, ils peuvent s'appuyer sur la base du terroir volcanique, qui peut être une pub, d'une certaine manière. Et puis, tout le patrimoine architectural, c'est-à-dire les maisons vigneronnes, qui rattachent d'ailleurs les Auvergnats un peu à cet ancien passé. Il y a beaucoup d'habitants du Puy-de-Dôme qui ne se souviennent absolument pas qu'on était une grande région viticole. Mais les bâtiments dans les villages, il y a encore des villages vignerons, hein. Qui peut voir ça. Et puis les caves, je crois qu'il y a 900 caves à Aubière. Clermont, c'est aussi un vrai gruyère et ça témoigne de ce passé viticole.
Et inversement, du coup, c'est vrai que ça, peut-être que cette reprise de la viticulture peut servir aussi à la valorisation du patrimoine et à l'exploitation touristique.
Et à l'œnotourisme.
Et l'œnotourisme.
Qui se développe dans beaucoup d'autres régions viticoles, et il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas chez nous. Hein. Alors, il y a un élément, je voulais dire, il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, parce que pour faire le vin, il faut 5 choses. Il faut des cépages, on en a parlé. On a parlé des 2 cépages de rouge, mais c'est le chardonnay en blanc. Hein. Il faut un terroir, Yvan en a parlé. Il faut quoi d'autre ?
Des hommes.
Très bien.
Jérôme Chappelle.
On en a parlé avec Jérôme Chappelle.
Et des femmes d'ailleurs, est-ce qu'il y a des femmes
vigneronnes ? Oui, tiens, des femmes alors. Oui. Vous avez des collègues femmes ?
Oui, il y a des collègues vigneronnes. Il doit y en avoir.
On en est à 3 sur 5.
Le climat, effet de faune.
Le climat. Le climat est un des éléments, je dirais, typiques de notre appellation, étant donné que la barrière montagneuse des Dômes barre toutes les précipitations qui viennent de l'ouest, c'est ce qu'on appelle l'effet de faune, et que l'on a côté Limagne, que l'on a plutôt une partie sèche qui est particulièrement favorable au développement de la vigne, qui n'aime pas automatiquement la pluie. Hein. Donc on a un climat favorable pour le développement de notre vignoble.
Donc 4.
Là, on est arrivé à 4. Et le cinquième, c'est le consommateur. Que ferait un viticulteur sans des consommateurs ?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
On en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que le consommateur, je dirais, hélas, ce sont à 80% des buveurs d'étiquettes, ce qu'on appelle des buveurs d'étiquettes.
Alors, préciser, c'est quoi ?
Eh bien, ça veut dire qu'ils vont plus s'attacher à l'étiquette, que ce soit qu'elle soit belle, originale, ça peut se comprendre. Mais si c'est pour s'attacher à dire, tiens, ben, bon, ça c'est du Bordeaux, ça va être bon. Ça c'est
du Bourgogne, c'est bon. Ça c'est du Languedoc, alors il y a une mauvaise réputation il y a des années. Ça c'est autre chose. Enfin,
Oui, mais justement, là, nous sommes en fait en direct d'une cave. Et enfin, bon, moi, je sais que... complètement ignorant en matière de vin, mais voilà, quand on va ici par exemple, on est conseillé et ça participe aussi à l'éducation du goût du consommateur.
Absolument.
Et tout à l'heure pendant l'édito, on vous a vu hocher la tête, faire une moue quand Jean-Marie a parlé de ce critique américain. Pourquoi alors
De cet expert autoproclamé.
Non, ne me dites pas que c'est un expert. Parker est un commercial qui, dans son guide, a défini les vins d'Auvergne comme des vins, le terme utilisé, c'est particulièrement insipide. S'il avait pris un dictionnaire, il serait aperçu que les côtes d'Auvergne sont tout sauf insipides. Insipide veut dire qu'il n'a pas de goût. Alors, les vins d'Auvergne ont eu mauvais goût dans le passé, je veux bien. Maintenant, ils sont excellents, mais on ne peut pas dire que les côtes d'Auvergne sont insipides. Donc, bon, par cœur, on connaît son parcours, il marche beaucoup avec les grandes appellations Bordeaux. Quand il voit arriver chez lui des caisses de Bordeaux, il va sûrement les traiter mieux que si on lui envoie des côtes d'Auvergne.
Jérôme Chappelle.
Oui, puis il note bien les vins de ses copains aussi. Ah, voilà. Oui. Et il a surtout, il aime bien manger des morceaux de bois. Il aime bien les vins qui sont très très boisés. Et alors, nos vins d'Auvergne sont peu boisés en général. Donc bon,
Et n'oublions pas que le boisé est fait pour, parfois, cacher les défauts. Hein ? Alors, moi, je préfère un vin fruité, comme le vin de Jérôme. Il est très fruité, il est naturel, il est goulayant, il est sympathique. Non, c'est vrai, quoi. Il faut reconnaître les choses. C'est pour ça qu'il faut... Il faut aller goûter chez les producteurs. Hein. Je crois que la bonne parole, c'est de dire, allez dans les caves, allez goûter chez les producteurs, dites j'aime ou j'aime pas, dites pas c'est bon ou c'est pas bon, parce que si vous dites c'est bon, moi je dirais rien, mais si vous dites c'est pas bon, je vous demanderai pourquoi. Et là, la difficulté va commencer, parce qu'il faudra m'expliquer pourquoi c'est pas bon.
Oui, en fait, ce que disait Jean-Marie dans son édito, bon, après, ce Robert Parker a le droit de ne pas aimer les vins d'Auvergne, mais simplement, c'est qu'on aboutit à une sorte de standardisation de... Absolument. Voilà, de donc, des...
C'est du vin sans âme. Le vin de Parker est du vin sans âme, alors que le Côte d'Auvergne a une âme.
Alors, Yvain Coste, c'est quoi un vin qui a une âme pour vous, qui êtes géographe et historien ?
Oh, je ne sais pas si l'histoire et la géographie veut parler. Non, je crois que c'est, comme disait Jérôme à maman, un certain feeling, en fait, quand on va goûter ce produit-là. Parce que certains vont dire parfois le côté terroir, ou alors très marqué pour, je ne sais pas, un gamet très marqué, ou un sol en arcose, où on retrouve vraiment ce rendu sur le produit. Mais je dirais un produit qui est agréable, qui est typique, qu'on reconnaît. Un vin sans âme, c'est plus facile de dire par l'inverse. C'est plus la chose extrêmement facile, sans aucun charisme, qui a été fait commercialement pour plaire, mais qui n'a pas de relief.
Est-ce qu'on pourrait comparer avec la production de musique, par exemple, avec les grands labels qui font de la soupe qui est facile à écouter, et puis les choses plus subtiles, peut-être plus compliquées à écouter, qu'on a envie de découvrir? Est-ce qu'on peut faire le parallèle et c'est cohérent?
Oui, ça me dérange pas. Hein, c'est sûr. Hein.
Vous êtes un groupe local en devenir qui fait les scènes et qui avait envie de faire découvrir votre son aux plus curieux. Alors.
Voilà, ben moi c'est un peu mon but, faire découvrir mon vin et faire découvrir aussi les Côtes d'Auvergne sur d'autres régions.
Alors pour finir cette émission, vous êtes quasiment tous venus avec un livre qui vient d'être édité, enfin du moins qui va être publié bientôt si je ne me trompe pas. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, bien sûr. C'est un livre. Il y a déjà eu un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années par la Fédération Viticole. C'était Côte d'Auvergne, le renouveau. Et là, on a souhaité publier un livre plus tourné vers l'avenir, même en n'oubliant pas le passé. Hein. On a fait tout l'historique des Côtes d'Auvergne, mais les figures de vigneronnes et de vignerons qui sont dans ce livre sont beaucoup plus jeunes d'abord. Donc il vient d'être édité, il sera présenté lundi prochain dans la manifestation qui va se dérouler sur les côtes de Chanturgue dans le Clos des Amoureux. Et donc c'est un livre qu'on a voulu de prestige parce qu'il a des photos de Pierre Soisson, qui est quand même un photographe bien connu dans la région. On m'a demandé d'en faire la préface, j'en ai fait la préface, et je pense que les textes qui accompagnent les photos de Pierre Soisson sont bien faits, décrivent bien. On a été demandé à chaque viticulteur, ça Jérôme peut en parler, ah oui, peut-être
Jérôme,
de son cap
personnel. Vous êtes dans ce livre, vous êtes dans ce livre ?
Voilà, oui, je suis dans ce livre. Donc on a été contacté par les journalistes qui ont voulu écrire sur les vins d'Auvergne, enfin qui... Et ensuite, il y a les photographes qui se sont déplacés pour faire des photos dans les vignes, dans les caves. Et il y a de très jolies photos dans le livre.
Son titre, peut-être ?
Alors, c'est Côte d'Auvergne, une nouvelle AOC.
Et on peut le retrouver où ?
Alors, on peut le retrouver...
À partir de lundi, bien sûr.
À partir de lundi, le mieux, ça sera peut-être de le commander, de se le procurer, dans un premier temps, à la Fédération Viticole. Donc c'est aller Pierre de Fermat à Aubière. Hein. Après, il sera sûrement distribué en librairie.
Eh ben, merci à vous tous. Merci pour toutes ces discussions autour du vin d'Auvergne, de la chimie et de la géographie, des peuples et des territoires. Voilà. L'émission va toucher à sa fin. Et peut-être avant de finir l'émission, on va parler de l'agenda scientifique, puisque l'émission Science Alors est une émission scientifique. L'agenda scientifique d'Auvergne.
Oui, alors cette fois-ci, je vais commencer par vous rappeler, on l'avait évoqué dans la dernière émission, le 25 avril auront lieu les Assises nationales des Expos Sciences, et donc une soirée sera consacrée aux arts et à la science à 20h30. Alors c'est le 25 avril et c'est à Polytech Clermont-Ferrand. Donc on aura d'abord une conteuse, Françoise Guagou, qui viendra nous parler des contes et mathématiques. Et puis ensuite, le spectacle de François Fabre, Si le bibi de Bobby m'était compté, dont on a passé un extrait dans la dernière émission. Alors, je voulais ensuite vous parler d'une exposition sur le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire qui va ouvrir le 18 mai à la médiathèque de Blanza. Et donc, on aura en même temps une conférence de Christiane Choulet-Achour sur Aimé Césaire et l'engagement d'une génération. Donc, c'est un agenda assez rapide aujourd'hui. On va remercier Bertrand Guillaume du comptoir du vin et de la truffe.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Merci de nous avoir accueillis, c'est vrai.
Merci au public d'être venu nous voir aujourd'hui, nous rencontrer.
Et participer au jeu formidable.
Voilà. Vous pouvez retrouver toute l'émission sur notre site internet sur sciencealors.fr. À la musique, nous avons écouté Alligator Wine de Screamin' Jay Hawkins, alors programmation proposée par Dassophonic. Les invités ce soir étaient Yvain Coste, Christian Barbala et Jérôme Chapelle. À la réalisation, Laurent, aidé de Raphaël. La prochaine émission, c'est le 20 mai. Nous parlerons des scientifiques amateurs. Et puis tout de suite, Génération Manga sur Radio Campus. Merci.
Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study. School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to play in a hate.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velocotelée.